Ok, bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez et d'où vous venez?
Je m'appelle Monsieur Iris Kachindi, je viens de la République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa.
Je peux vous demander de nous conter un petit peu votre histoire et l'histoire de votre lutte dans votre pays.
Ok, je suis le chargé de programme d'une ONG qu'on appelle CORAP, qui signifie la Coalition des ONG de la société civile pour le monitoring de réformes des actions publiques. Et nous faisons un monitoring en focus sur le secteur de l'électricité, notamment sur les questions liées aux grands projets. Et là, je suis accompagné avec les communautés locales d'Inga, un grand projet qui sera érigé au niveau du Congo central. Et ces projets suscitent beaucoup plus de questionnements au niveau de la population, d'autant plus que on se pose des questions sur la clé de répartition, sur l'accès à l'information et sur l'impact environnemental. Nous sommes de la société civile, nous avons la stratégie de mettre la pression sur cette question, d'autant plus que la population n'est pas au courant de ce qui va se passer. Il va se lever un matin et se voir délocalisé, ça c'est une grande question, et d'aider, il ne sera jamais indemnisé. Et comment l'indemnisation va se faire? La population, les communautés locales ne sauront pas. De trois, la clé de répartition de cette énergie, comment cela sera réparti? La population n'est pas au courant. Raison pour laquelle nous faisons pression à travers un plaidoyer. Et le plaidoyer se constitue de manière assez diversifiée. Sur le plan national, nous essayons d'analyser la question, nous essayons d'identifier l'entreprise qui va venir, nous essayons de faire le suivi, la traçabilité de l'argent qui serait injecté dans le grand projet et de voir quel modèle le projet va être, si c'est le modèle partenariat public-privé. Nous essayons d'analyser les timings des concessions, quels seraient les profits du gouvernement, quels seraient les profits de population, et combien le bénéfice de cette entreprise qui va venir. Après ça, au niveau international, nous avons des alliés, des ONG membres qui nous aident à tracer les entreprises qui arrivent, à comprendre est-ce que l'entreprise qui va injecter des fonds dans le projet Grainga, est-ce qu'il est crédible ou est-ce qu'il a déjà travaillé, est-ce qu'il a impacté des zones, est-ce qu'il a bien géré les projets qu'il a y a implémenté dans d'autres pays. Nous essayons de faire ça avec des ONG membres telles que IDI. Au niveau national, nous organisons en termes de synergie des ONG parce que seuls nous ne serons pas. Et il y a quand même une coalition. En tant que CORAP, nous sommes une coalition. Nous fédérons aussi d'autres coalitions au niveau africain, au niveau régional, au niveau national. Et dans ce sens-là, nous faisons pression à travers des campagnes. Nous alignons le média au niveau national, pour dénoncer ce que nous sentons que ça ne va pas aller dans le sens d'être au profit de la population, de dénoncer de ce que nous pensons que va aller au profit des intérêts des entreprises. Et nous mettons en avant-plan l'intérêt des communautés locales, la question des impacts et la question de l'accès à l'information et à la question des indemnisations. Ce sont là les grandes questions que nous traitons. Et la stratégie, c'est de marteler dans le média, de sensibiliser au niveau local, de sensibiliser au niveau national et international pour voir comment est-ce que le gouvernement doit répondre aux aspirations de la population et des questions posées par les ONG telles que la CORAP.
Et j'ai une question. Est-ce que toi, tu te rappelles la dernière manifestation que vous avez faite avant de partir pour cette quatrième rencontre internationale?
Ok, à Kinshasa, nous avons eu l'initiative au mois de juillet d'organiser un grand forum sur le grand barrage et la crise climatique. Et au centre de cette activité, il y a eu la question du projet Grand Yenga. D'autant plus que le gouvernement veut faire de ce projet un projet panafricain. Et cela a suscité beaucoup plus de questionnements sur voir quel est le modèle de financement, comment est-ce que l'énergie qui sera produite sera répartie, quelle est la question de la souveraineté énergétique de la RDC et les quotes-parts des communautés locales. Ce sont des grandes questions qu'on a eu à discuter au niveau de Kinshasa. Ensemble, nous avons exigé que l'accès à l'information à travers ces projets soit vraiment éclairé, que nous ayons plus d'informations au travers les institutions qui gèrent ces projets, telles que l'ADEPI ou soit la Banque mondiale qui est partenaire officiel du gouvernement actuellement. Et on a fait des pressions, on a eu des entretiens, on a eu des émissions, on a même écrit un mémo où on a déposé au niveau de la présidence, au niveau des institutions privées qui sont parties prenantes au projet. Et cela a démontré de manière assez efficace notre façon de mener notre plaidoyer contre les grands barrages.
Parfait. Et comme dernière chose, je ne sais pas si tu as une vie, si tu as quelque chose à dire à les personnes italiennes qui vont t'écouter. Un message pour les Italiens et pour les Européens quand même.
OK. Pour les Européens, les Italiens en particulier, les Européens de manière générale, c'est de voir comment est-ce que solidairement ils doivent aider l'Afrique aujourd'hui à aller dans le mix énergétique pour éviter les grands impacts au niveau environnemental, d'autant plus qu'aujourd'hui les grands barrages sont vraiment désuètes et ça risque encore plus davantage d'impacter la population au moment où la crise climatique fait déjà des ravages. Si on érige un barrage où on doit délocaliser plus de 36 000 familles, ça représente quand même l'exode rural assez important. Donc l'autonomisation ou soit la décentralisation du système énergétique doit être accompagnée pour voir comment est-ce que la RDC, à travers l'intelligence occidentale, aide la RDC à promouvoir ce genre de système énergétique. Merci.
Merci.
Okay.